France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur les années sombres et douteuses d'une grande dame de la mode française, Coco Chanel. Une femme puissante, fascinante, qui transcenda ce passé de cocotte et de chanteuse de cabaret, ce qui fit dire à certains, Chanel, on ne peut pas dire qu'elle était belle, elle était pire. De rencontres décisives en coup de génie, la jeune orpheline devient une femme richissime, adulée à travers le monde. L'incarnation de l'élégance moderne à la française, c'est elle. Le parfum de Marilyn, nu dans son lit, encore elle. Le tailleur rose de Jackie Adalas, taché du sang des Kennedy, toujours elle. Une success story vertigineuse, mais pas seulement. Car Coco Chanel, c'est aussi un roman noir qui draine des passions tristes et des actes inavouables. Une femme mue par un antisémitisme décomplexé et par un opportunisme à toute épreuve. Une femme qui, devenue la maîtresse d'un haut dignitaire nazi, accepta de jouer les Matahari pour l'Abwehr, le renseignement du Reich. Une trajectoire heurtée qui donne raison à André Malraux lorsqu'il écrit dans ses anti-mémoires « La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. » Et en l'occurrence, ce qu'elle cache. Notre invité aujourd'hui, l'éditorialiste Christophe Barbier. Passionné de théâtre, il ne se contente pas de le vivre en tant que spectateur, il joue lui-même. Vous pouvez le voir en ce moment dans le rôle de Paul Morand, confident de Coco Chanel, dans la pièce Mademoiselle Chanel en hiver, au Théâtre de Passy, Paris 16e. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Franck Cognard. Chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Grâce 1921. Une femme aux allures de garçonne descend de voiture et se dirige vers un homme au visage rond, un certain Ernest Beau, ancien parfumeur de la cour des Tsars, qui, comme tant d'autres, a rejoint la diaspora russe sur la Riviera. Il sait que ses clients sont exigeants, parfois fantasques. Mais ce jour-là, se tient en face de lui une femme spéciale, différente. Certes, elle est riche, elle a d'entre gens, mais surtout, elle est celle qui vient de révolutionner la mode. Cette femme, c'est Gabrielle Chanel, dite Coco. À son sujet, le magazine Harper's Bazaar écrit dès 1917 « Cette saison, le nom de Chanel est sur toutes les lèvres. Une femme qui n'a pas au minimum un Chanel est totalement démodée. » Au seuil de ses années 20, il faut donc avoir l'air moderne, l'air Chanel. En venant à Grasse ce jour-là, l'idée de la créatrice est de prolonger cette modernité. Et elle dit à Ernest Beau, le parfumeur, « Je veux un parfum de femme à odeur de femme. » Bien. Et il lui en propose plusieurs, et voilà que Chanel choisit le plus hardi, le cinquième. Elle se souvient ici, au micro de France Inter, en 1970.
Pourquoi votre parfum s'appelle-t-il numéro 5 ?
Ah, ça, c'est le... je sais pas. C'est la chance, encore une fois. Je trouve que le 5 est joli. Et je mettais toujours, c'est moi qui les ai fabriqués, mes parfums, et je mettais sur la bouteille le numéro. Et j'avais fait ça. J'avais mis un morceau de papier, j'avais mis un 5. Et j'ai dit, ça, c'est très joli, c'est simple, et ça ne s'est encore jamais fait, c'est une nouveauté. Vous allez voir si ça plaira. Parce que je trouve que les noms, autrefois aussi, on donnait des noms aux robes. Alors c'était idiot, ça. J'ai changé ça, j'ai mis des numéros. C'est plus facile d'en tenir un numéro que d'en tenir un nom, qui est quelquefois ridicule.
Avec Chanel, donc, ni appellation désuète, ni flacon à la cristallerie boursouflée, non. Un simple rectangle, calqué sur le modèle des flasques à vodka de la garde russe. Un geste élégant et minimaliste. Elle charge alors deux industriels, les frères Wertheimer, de le commercialiser. Un choix judicieux, puisqu'ils sont déjà propriétaires de la marque Bourgeois, avec un J, qui connaît un succès inouï aux États-Unis. Le contrat est donc signé en 1924. Il propose 70% à Wertheimer, 20% à Théophile Bader, le fondateur des Galeries Lafayette, qui le mettra en vitrine, et 10% à Chanel. Après tout, elle ne fait qu'apporter son nom. Oui, sauf que le succès est mondial, et que l'argent coule à flot. Coco Chanel devient une femme riche. Mais plus elle est riche, plus elle se sent lésée. À qui veut l'entendre, elle répète qu'il me roule, ce cher Pierre. Lui et son frère, ce sont des bandits. qui n'en rancune, qui s'intensifie au contact de ses amis, les écrivains Paul Morand, Drieu La Rochelle ou le chorégraphe Serge Liffard. Elle en parle aussi aux familles, Cossé Brissac ou Polignac. Et tous partagent son avis. Bien sûr que les Wertheimer l'ont roulé, n'oublions pas qu'elles sont juifs. Un cliché auquel Chanel adhère. Éduquée en Auvergne, puis en Corrèze, en partie dans l'abbaye d'Aubazine, elle n'a pas échappé à l'atmosphère anti-Dreyfusard de son époque. Et c'est ainsi que naissent les préjugés. Dans son livre « Le moment antisémite à un tour de la France en 1898 », l'historien Pierre Birnbaum témoigne de cette violence qui irradiait la France lorsque Chanel avait 15 ans.
Dans les grandes villes comme dans les petites bourgades endormies, des foules se lèvent qui brisent tout sur leur passage. Arpentent inlassablement les artères principales en criant « Abba Zola, mort aux Juifs !» Jour après jour, des milliers de personnes défilent et affrontent la police. On brûle des mannequins représentant Zola et Dreyfus. On organise le boycott et la délation. C'est l'antisémitisme dans la vie quotidienne.
Coco Chanel ne s'est jamais exprimée au sujet de l'affaire Dreyfus. Mais elle peste contre les Wertheimer. Et elle agit. En 1934, elle engage l'avocat René Chambrin. L'homme est jeune, il descend du général Lafayette et il a le bras long. Il vient de se fiancer à José Laval, fille unique de Pierre Laval, le très droitier président du Conseil. En outre, Chambrin est le filleul du maréchal Pétain, qui le surnomme Petit Lapin. Tout se croise au José Club, Jockey Club ou chez Maxime. Ils y boivent du champagne, nouent des alliances, des contrats, tout en maudissant Blum et la juiverie qui imprègne l'État, comme ils disent. Chanel épouse les opinions de droite de cette engeance qui ne font que souligner son mal-être. Car si l'orpheline s'est muée en une implacable femme d'affaires, sa vie amoureuse est beaucoup moins réussie. Dans les années 20, son grand amour, Boy Capel, a préféré épouser une riche héritière avant de se tuer au volant de sa voiture de sport. Puis vint l'échec de son histoire avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, celui-là même qui lui avait présenté Ernest Beau, le parfumeur. Elle remplace alors Dimitri par le duc de Westminster. Grâce à lui, elle fréquente l'aristocratie anglaise et devient même amie avec Churchill lors d'une chasse à cour. Une rencontre cruciale, nous y reviendrons. Celui-ci est alors chancelier de l'échiquier, ministre de l'économie si vous préférez. Et un jour, il écrit ces mots à sa femme. « La célèbre Coco est arrivée, je me suis entiché d'elle. C'est l'une des femmes les plus compétentes et les plus agréables. » De loin, la plus forte personnalité à laquelle Westminster a eu affaire. Sauf que Westminster renonce à épouser Chanel, la roturière, la parvenue, l'irrégulière. En 1974, la biographe Edmond Charleroux l'explique au micro de France Inter.
L'irrégulière, c'est méchant?
Je crois que c'est plutôt pénible. C'est un mot qui a été inventé par Proust, enfin du moins utilisé par Proust dans, je crois, « L'ombre des jeunes filles en fleurs », pour parler des femmes entretenues, des femmes avec lesquelles on couchait, mais qui vous coûtaient de l'argent, mais qu'on n'épousait pas, qui plus est, qui, parce qu'elles avaient été entretenues, étaient inépousables pour toute leur vie. Ça a été un peu le cas de Chanel.
Alors Chanel retourne à ses affaires. Direction Paris, rue Cambon, où elle rencontre son mauvais génie, l'artiste Paul Ribet. Il rentre de Hollywood et rêve de relancer sa revue d'extrême droite, Le Témoin. Grisé par cette nouvelle liaison, Chanel sort son chéquier et le finance. La revue paraît en 1933. Parallèlement, sont placardés dans Paris des caricatures de Blum et de Daladier arborant une cagoule noire et des insignes maçonniques. Le slogan « Si vous n'aimez pas ça, lisez Le Témoin ». Toujours dans son livre, L'Irrégulière, Edmond Charleroux témoigne de cette dérive nationaliste.
Le Témoin n'était que l'inutile reflet de la presse de ces années-là, tout au moins de cette presse dite « patriotique » qui allait encourager anciens combattants et jeunes ligueurs, croix de feu du colonel de la Roque et section d'assaut de la Cagoule. À les lire, on eût dit que la France était l'éternelle victime d'une vaste machination internationale. Aux ennemis de l'intérieur, qui étaient forcément des Samuel, des Lévy, des étrangers, des Blum et des Torres, s'ajoutaient les ennemis de l'extérieur, l'URSS et ses hordes barbares.
Chanel adhère également à la Ligue antiparlementariste du lieutenant-colonel de la Roque, comme ça c'est complet. Le journal Le Temps commente. Madame Chanel est en croix de feu, on comprend que le commerce de luxe et ses exigences. Mais peu importe les moqueries, avec Ribet, Chanel pense tenir sa revanche amoureuse. Et puis avec lui, elle découvre les joies de vivre au Ritz, à l'année. Mais le bonheur est de courte durée pour Chanel. Voilà qu'en septembre 1935, son homme meurt d'une crise cardiaque sous ses yeux lors d'une partie de tennis.
Le Front populaire existe parce que nous avons pris l'engagement au nom de notre parti d'entrer dans un gouvernement qui se proposerait comme objet l'exécution du programme du Front populaire.
Coco Chanel vient de fêter ses 52 ans, elle est désemparée. En 1936, elle lance la revue Future qui proclame « La République sera réformatrice ou ne sera plus ». Et elle propose sa solution, une économie ordonnée. Et c'est peu dire qu'en cette même année 36, elle aborde la ferveur socialiste qui s'empare du pays. En juin, face à la grève des ouvrières, voilà qu'elle se cabre, avant de se raviser. Mais la séquence a été gênante. On murmure qu'elle est la dernière maison de couture à rouvrir. Et puis, elle sent bien la concurrence montée, incarnée par Elsa Schiaparelli, dite Schiap, comme le raconte sur France Inter l'historien de la mode François Baudot.
C'est un peu le baroque et le classique qui s'opposent, ou le noir et le blanc. Le terrain d'affrontement de ces deux personnages, via leur cliente, étant, dans le fond, l'hôtel Ritz, qui faisait très exactement la liaison entre les salons de Mademoiselle Chanel, qui était rue Cambon depuis 1920, et la maison Schiaparelli qui s'est installée en 1936, place Vendôme. Et on peut dire que le Ritz qui traverse ce bloc était une sorte de champ d'affrontement entre les tendances austères de Mademoiselle Chanel et l'extrême fantaisie qu'a apporté très vite Elsa Schiaparelli dans ce costume moderne que Chanel avait mis au point, avec lequel Schiaparelli a joué.
Schiaparelli, ah, Chanel la surnomme avec mépris l'Italienne, auquel l'intéressé répond « Chanel est fini ». Que nenni, Chanel n'est pas fini, loin de là. Et ses réseaux fonctionnent à plein. Parfois pour le meilleur, comme lorsqu'en septembre 36, elle invite Cocteau et Churchill à dîner 3 mois avant l'abdication d'Édouard VIII. Mais parfois c'est pour le pire. 8 mois plus tard, elle se lie d'amitié avec ce même Édouard VIII et sa femme Wallis Simpson, qui, comme elle, descend d'Auritz. Ils sont charmants et ils ont tant de choses passionnantes à lui raconter. Ils reviennent d'une visite à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Ils y ont rencontré Adolf Hitler.
C'est la petite femme de Paris qui, gracieuse et coquette, met de l'amour dans tous les esprits et fait tourner tout les têtes. Oui, mais quand un cœur est pris par la petite femme qui passe de Montmartre à Montparnasse, c'est une petite femme de Paris. Des minois ravissants, jolis teints éclatants, des sourires charmants, des cheveux merveilleux. Tous les yeux noirs ou bleus ont l'air malicieux. Tout ce qu'on voit, c'est joli, c'est mignon, c'est gentil, les yeux sont ravis. Mais ce qu'elle a de meilleur et que l'on ne voit pas, c'est son cœur. Oui, c'est la petite femme de Paris qui, gracieuse et coquette, met de l'amour dans tous les esprits et fait tourner tout dans les têtes. Oui, mais quand un cœur est pris par la petite femme qui passe de Montmartre à Montparnasse, c'est une petite femme de Paris. Un monsieur, bien souvent, lui murmure en pensant les propos galants, elle entend le boniment, leur soit en souriant et dit sérieusement à minuit, moins un quart, rendez-vous à la gare Saint-Lazare, ça veut dire, en français, toi mon vieux, tu ne m'enverras jamais. Oh là, la petite femme de Paris, qui gracieuse et coquette, met l'amour dans tous les esprits et fait tourner tout les têtes. Oui, mais quand un cœur est pris par la petite femme qui passe de Montmartre à Montparnasse, c'est une petite femme de Paris. Thank you.
Aujourd'hui, Coco Chanel, une trajectoire sinueuse.
France Inter, Affaires sensibles.
Paris, rue Cambon, septembre 1939. Les volets du premier étage sont clos. Les chaises de velours rouge, qui d'ordinaire accueillent les clientes, sont recouvertes de housses grises. La raison, c'est la guerre. Et Chanel a licencié toutes ses couturières. En revanche, sa boutique de parfums reste ouverte, qui lui assure un train de vie très confortable. Quelle période étrange! Alors que les Parisiens découvrent le rationnement et que 120 000 réfugiés affluent de l'Est en panique, les élites jouent à l'hippodrome d'Auteuil et applaudissent Maurice Chevalier au Casino de Paris. Or, en avril 1940, les nouvelles sont alarmantes. Les Allemands pilonnent les ports danois et norvégiens. À Londres, Chamberlain démissionne et Churchill est nommé Premier ministre, sans doute pour redorer le blason du pays après les malheureux accords de Munich. En mai, l'armée française s'effondre. En juin, l'armée du Reich est aux portes de Paris. Et c'est l'exode. Le gouvernement fuit à Bordeaux. Gagné par la panique, Chanel met le cap vers Pau, où elle décide de rejoindre son neveu André à Corbeil. Mais elle apprend qu'il a été fait prisonnier. Stupeur. D'autant que le 17 juin, en début d'après-midi, la radio interrompt son programme.
Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte, et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Le 10 juillet, au théâtre du Grand Casino de Vichy, sur les 649 sénateurs et députés présents, seuls 80 refusent de signer les pleins pouvoirs à Pétain. Chanel n'en paraît pas accablée. Elle décide de remonter à Paris en compagnie de son amie Marie-Louise Bousquet avec un détour par Vichy. Le décor, c'est le journaliste Al Vaughan qui le dresse dans le chapitre 7 de son livre intitulé « Dans le lit de l'ennemi ».
En juillet, lorsque Chanel arrive, la ville grouille de quelque 130 000 hommes politiques, diplomates, prostituées et agents secrets, installés hâtivement dans des boxes, des salles de jeux de casino ou utilisant comme bureau les chambres vides d'hôtels sans chauffage. Les archives rapportées de Paris sont entreposées dans des baignoires et partout sur les murs s'affiche le visage hiératique du maréchal Pétain qui toise ses fonctionnaires au travail.
Chanel y passe quelques jours et dîne à l'hôtel du Parc, là où Pétain a ses habitudes. Mais elle ne parvient pas à lui demander de l'aide pour faire libérer son neveu. Il lui faudrait pour cela des intermédiaires. Et puis arrivée à Paris, une mauvaise surprise l'attend. Le Ritz a été réquisitionné par les Allemands. Désormais, une croix gammée flotte sur l'édifice et sa suite a été attribuée à un officier. Mais parce qu'elle est la grande mademoiselle, on lui propose les chambres 227-228, plus modestes, dans une aile réservée aux amis des nazis. Et Chanel accepte. Certes, elle n'organise pas de défilé privé pour les Allemands, contrairement à certains de ses confrères, mais elle ne s'oppose pas à cette occupation, comme a pu le faire Balenciaga, qui lui, en conséquence, est contraint de fermer sa maison. Elle ne quitte pas non plus la France, à l'instar de sa rivale Schiaparelli, partie, elle, aux États-Unis. Non. Elle se laisse vivre, en compagnie de ses amis noceurs, comme le raconte Félicité Herzog dans son livre « Une brève libération » chez Stock en 2022, et qui traduit bien l'atmosphère de cette époque.
Depuis le début de la guerre, ma mère avait son jour. Comme d'autres dames de Paris, elle accueillait dans le salon du 36 cours Albert Ier une foule de relations et d'obligés qui y trouvaient, en période d'âpre rationnement, pâtés, champignons, volailles en tout genre, transportées par son chauffeur de la campagne aux cuisines. Mais aussi chauffage assuré et conversation informée. Il n'était pas question de déchoir. Ces après-midi voyaient virevolter hommes politiques, écrivains, actrices et femmes du monde.
Chanel fait partie de ces femmes du monde invitées au 36. Tout comme Paul Morand, Jean Cocteau ou Arletty. Tous partagent le même engouement pour le nazisme, qu'ils considèrent comme le seul rempart possible au communisme, qui lui s'en prend aux riches, c'est bien connu, donc à eux, et manquerait plus que les ouvriers portent du Chanel. Avec Jean Brun, son avocat, il lui arrive également de dîner chez Otto Abetz, à l'ambassade d'Allemagne, rempli des meubles pillés au Rothschild. Parfois, il retrouve le journaliste Fernand de Brinon, surnommé von Brinnentrop, bientôt nommé ambassadeur de Vichy en zone occupée. Il se donne rendez-vous au Grand Pavois, un club des Champs-Élysées, connu pour héberger la revue d'extrême droite Le Pilori, subventionnée par le Reich. Alors, évoque-t-elle avec lui les lois anti-juives ? Sans doute. L'une d'elles l'intéresse particulièrement. Nommée ordonnance d'arianisation, elle place sous séquestre les entreprises et biens appartenant aux juifs absents ou arrêtés. Et pour Chanel, c'est une aubaine. Oui, une belle revanche contre les Wertheimer. Le 5 mai 1941, elle demande à l'administration de Vichy de récupérer la totalité de ses parts sur le parfum numéro 5.
Monsieur l'administrateur provisoire, j'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que je me porte acquéreur de la totalité des actions Parfum Chanel, société anonyme au capital de 4 200 000 francs, qui sont aux mains de juifs, et que vous avez pour mission de céder à des sujets ariens. Je pense que vous serez d'accord pour reconnaître que ma qualité de fondatrice de la société me confère un droit de priorité indiscutable à l'achat de ces actions. J'estime en conséquence que vous contribuerez ainsi à réparer en partie les préjudices que j'ai subis au cours des 17 dernières années. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur provisoire, l'expression de mes sentiments très distingués. Gabriel Chanel.
En clair, mademoiselle Gabriel Chanel tente de spolier les frères Wertheimer. Sauf qu'en homme d'affaires avisé, ces derniers avaient anticipé la débâcle. C'est-à-dire qu'avant de s'exiler aux États-Unis, ils avaient pris soin de léguer leurs actions à leur ami Félix Samio, un industriel de l'aéronautique. Et pourquoi lui ? Eh bien parce qu'il détient les usines qui fabriquent des bombardiers pour la Luftwaffe, et qu'il est intouchable. En somme, le parfum a déjà été arianisé, mais à son insu. Folle de rage, Chanel prend acte de son échec. Mais elle ne baisse pas les bras, puisqu'un autre combat l'attend, la libération de son neveu prisonnier en Allemagne. Elle se rapproche alors du baron von Dicklage, un ancien combattant du front russe, désormais officier de l'Abwehr, les renseignements allemands. L'homme a 44 ans, une gueule d'ange et une réputation douteuse. En 1935, un livre est apparu, Le filet brun, qui dénonçait l'agent de la Gestapo von Dicklage, dit Spatz, officiellement attaché d'ambassade, en vérité un proche de Goebbels, chargé de la propagande. En Afrique du Nord, on se souvient bien de lui. Il avait fomenté des pogroms. Et son nom avait circulé dans la presse. Il n'empêche, dans l'intimité, Spatz est élégant, un vrai dandy qui ne tarde pas à faire chavirer la couturière, qui déclare « Lorsqu'on a la cinquantaine, que c'est la guerre et qu'on croise une telle passion, on est peu regardant sur le passeport de son amant. » D'autant que Spatz lui fait miroiter la possibilité de faire libérer son neveu en échange de ses services. En juillet 1941, Chanel est donc immatriculée au registre de l'Abwehr sous le pseudonyme Westminster F7124. Sa première mission l'amène à Madrid, d'où elle doit se rendre à Londres pour encourager les Anglais germanophiles. Le 11 novembre 1941, son neveu est libéré et Coco est satisfaite. L'agent Westminster a réussi. Désormais, et Chanel le sait, l'Abwehr ne va plus la lâcher. N'est-elle pas une femme d'influence ? Elle connaît tout Paris. D'autant qu'en novembre 1942, la donne géopolitique semble évoluer.
L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
Un débarquement en Afrique du Nord, voilà qui inquiète sérieusement les Allemands. D'autant que sur le front soviétique, l'opération Barbarossa est un bourbier. Côté allemand, il y a donc urgence à signer le paix séparé avec les Anglais. Or, ces derniers sont dirigés par Churchill, à qui on ne la fait pas.
À Casablanca, avec Roosevelt, il retrouve le général de Gaulle et le général Giraud le 14 janvier 1943. Là fut décidé que la lutte se poursuivrait jusqu'au bout, jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Là aussi se fortifia l'unité des forces françaises combattantes. Le débarquement en France était reporté à 1944. En attendant, on libérerait la Sicile et l'Italie.
En somme, Churchill exige de l'Allemagne une capitulation sans condition. Une fermeté qui jette le trouble. Chanel propose donc à l'officier Theodor Mom, qu'elle côtoie au Ritz, de contacter elle-même Churchill. Elle le connaît bien, ils étaient amis dans les années 20. Et elle est sûre de le convaincre pour négocier une paix séparée avec le Royaume-Uni, le vrai adversaire d'Hitler, qui en était conscient d'ailleurs. Séduit par l'idée, Mom prend contact avec Walter Schellenberg, le responsable du contre-espionnage de la Gestapo. Une Française, pourquoi pas ? Reste à tester la fiabilité de la Française en question. Alors il convoque Chanel à Berlin, qui accepte. Elle le rencontre à son bureau, dans l'office central de la sécurité du Reich, un ancien hospice spolié aux Juifs. Se rend-elle compte du danger ? D'après les Américains, Schellenberg est un bandit intelligent, bardé de diplômes universitaires. Quoi qu'il en soit, la rencontre a lieu en avril 1943, et c'est le début de l'opération Model Hut, chapeau de couture. À Berlin, l'agent Chanel expose son plan. Pour contacter Churchill, mieux vaut passer par Madrid, où ses relations avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne sont excellentes. Mieux encore, l'idéal serait d'être accompagné par son ami Vera Bate, membre de la famille Windsor et ami d'enfance de Churchill, qui vit à Rome avec le colonel fasciste Lombardi. Le cocktail est donc idéal. Et puis sur place à Madrid, qui se méfierait de ces deux femmes ? En vérité, c'est un cocktail explosif. Et Schellenberg le sait. Il préfère donc rencontrer cette Vera Bate avant de lancer la mission madrilène. On n'est jamais trop prudent. Or voilà que Vera refuse. Cette lady n'est pas du genre à se faire convoquer. Alors on tente un coup. Le 12 novembre, Bate est arrêté sous un prétexte fallacieux, tandis que depuis Berlin, Schellenberg propose de la libérer à condition qu'elle accepte d'obéir au service du renseignement allemand. Éplorée et coincée dans sa prison romaine, l'Anglaise se tourne vers son mari, qui ne peut plus rien pour elle. Mussolini vient d'être destitué. Vera accepte donc de retrouver Schellenberg à Paris, puis d'accompagner Chanel à Madrid. Mais elle est une femme orgueilleuse, et elle en veut à son amie Chanel, que de problèmes à cause d'elle. En conséquence, arrivé à Madrid, tout déraille. Dans son livre « Dans le lit de l'ennemi », Al Vaughan relate cet épisode, évoqué lors de l'interrogatoire de Schellenberg par le MI6, les renseignements britanniques.
Lors de son arrivée à Madrid, au lieu de poursuivre la mission qui lui avait été assignée, Vera dénonce tout le monde aux autorités britanniques. Résultat, elle accuse Chanel d'être un agent allemand. La mission tourne au fiasco. L'échec est patent. Et tout contact est immédiatement abandonné avec Chanel et Vera Lombardi. Je ne sais même pas si l'information a transité jusqu'à Churchill.
Vera s'est mise à table. Elle a tout déballé. Le chantage, la prison pour femmes, la mission pour négocier une paix séparée. Le tout orchestré par Chanel et Schellenberg. Les diplomates se tournent alors vers Chanel et lui disent « Pardon, mademoiselle. » Vous désiriez passer un message à Churchill alors que vous êtes un agent nazi ? C'est une plaisanterie. La demande de Chanel tombe dans un trou noir. Et puis, Churchill est à Tunis, cloué au lit par une pneumonie. Comprenez qu'il ne traite que les urgences, pas les plaisanteries. Coco comprend que sa mission n'ira pas plus loin et que sa lettre à Churchill ne sera jamais transmise. Quel échec ! Comme elle a pu être naïve. D'autant que cette histoire qui lui a fait perdre l'amitié de Vera est un drame pour elle. Et enfin, la guerre s'achève. Mais chez les collabos, l'inquiétude est de mise, forcément. Dès 1942, le magazine Life avait publié une liste noire prédisant « Des collaborateurs seront jugés, voire exécutés, lorsque la France sera libérée. » De fait, à la libération, des milliers de collabos sont sommairement exécutés. Et de nombreuses femmes soupçonnées de collaboration, disons horizontale, sont tondues en public. Le camp des vainqueurs, c'est aussi se nourrir d'indignité.
Les collaborateurs sont la cible de la colère patriotique. Les femmes compromises avec les nazis partagent la défaite des Allemands. Elles sont rasées en public, une punition fréquente dans les pays libérés.
Pour mettre fin à cette justice expéditive, le gouvernement provisoire du général de Gaulle crée des tribunaux spéciaux où l'indignité nationale est instaurée et où certains inculpés encourent la peine capitale. Saisissant l'urgence de véhiculer une bonne image, Chanel décide d'offrir un parfum numéro 5 à chaque GI. Et ça marche. Ils sont des dizaines à faire la queue devant la boutique. Il n'empêche, elle figure bien sur la liste noire des FFI, les forces françaises de l'intérieur, qui se moquent bien de ces parfums offerts aux soldats. C'est ainsi que le 10 septembre 1944, deux hommes munis d'un revolver à la ceinture bondissent d'une traction noire Citroën. Ils s'engouffrent dans le Ritz et en ressortent encadrant une femme élégante. C'est Coco Chanel qui vient d'être arrêtée. Toutefois, les résistants ignorent tout de la mission Model Hut. Seul compte sa mauvaise réputation et sa présence au Ritz parmi les nazis. Or, voilà qu'après quelques heures d'interrogatoire, coup de théâtre, elle est libérée. D'après Paul Morand, dans son livre « L'allure de Chanel » paru en 1976, Churchill aurait ordonné à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, Duff Cooper, de la protéger, en souvenir sans doute de leur fameuse partie de chasse à cour. D'ailleurs, la biographe Edmond Charleroux le confirme, sans Churchill, elle était tondue. Mais voilà que Coco reçoit ce message du duc de Westminster. « Ne perdez pas une minute, quittez la France. » Alors, munie de ses malles, de son chauffeur et de sa Cadillac, elle fait comme les rats qui quittent le navire. Elle s'enfuit piteusement à Lausanne. La vie est calme, mais tenue à l'écart de la vie parisienne. Alors Chanel enrage. D'autant qu'à Paris, la mode renaît, oui, mais sans elle. Certes, Paul Morand passe la voir. Et certes, Spatz, qui est en cavale, lui donne rendez-vous à l'hôtel Beau Rivage, où il l'assure de son amour. Mais il est impossible à Chanel de s'imaginer à la retraite. Alors, prévoyant son retour, elle achète le silence de tous ceux qui pourraient la compromettre. Et elle n'a pas tort. En mai 46, sa fiche d'immatriculation de l'Abwehr est transmise à la justice française. En conséquence, le juge d'instruction Roger Serre décide d'ouvrir une enquête. Et voilà Chanel officiellement soupçonnée d'intelligence avec l'ennemi et déclarée en fuite. Convoquée à Paris, elle est interrogée durant des heures. Et elle nie tout en bloc.
Je proteste contre ces déclarations qui tiennent du roman et qui sont d'une invraisemblance manifeste. Je n'ai jamais eu connaissance d'une immatriculation me concernant dans un service allemand et je proteste avec indignation contre une pareille absurdité. Savez-vous que je pourrais vous faire parvenir une attestation de M. Duff Cooper, ancien ambassadeur d'Angleterre, qui pourrait attester de quelle considération je jouis dans la société anglaise ?
Face à ces dénégations, le juge Roger Serre est circonspect. Il aimerait bien poursuivre l'enquête, mais les juges sont submergés par les dossiers. Et les mois passent, et la France se lasse de ces vieilles histoires, de ces haines recuites. Tous préfèrent tourner la page. Les années 50 s'annoncent si glorieuses. Alors on débat d'une dernière loi d'amnistie, comme ici en 1953, au micro de la Tribune de Paris.
La gloire de la France. Il n'y a pas de commune mesure entre la résistance et la collaboration. Mais la France en est à une époque où elle doit rassembler tous ses enfants. Nous ne devons pas permettre dans l'avenir la création de je ne sais quel nouveau Berlin, ni l'expatriement de nombreux Français en Amérique du Sud ou dans d'autres contrées du monde. Et c'est pourquoi je souhaite que nous en terminions une fois pour toutes par l'amnistie la plus large, la plus généreuse et permettant enfin de ne plus procéder par étapes et d'en terminer avec une question si douloureuse et si préjudiciable à l'unité nationale.
Une bénédiction que cette unité nationale. Ainsi, le juge conclut que Chanel avait été immatriculée à l'Abwehr à son insu par un officier trop zélé. Les poursuites sont donc abandonnées et Chanel retrouve Paris. Après de 70 ans, plus combatif que jamais, voilà qu'elle recontacte Pierre Wertheimer, qui a repris le contrôle des parfums Chanel. Et après négociation, elle finit par remporter la mise. Elle reçoit, en plus de ses 10%, 326 000 dollars de royalty sur les ventes passées et 2% brut sur les ventes futures, soit environ 1 million de dollars par an, tout en étant logée et nourrie au Ritz. Doit-on s'étonner que, grisé par ce coup d'éclat, le phénix renaisse de ses cendres et qu'en 1953, elle relance officiellement sa maison de couture ? À son ami, le photographe Hortz, qui dans les années 30 donnait aux femmes des allures de déesse grecque, elle confie « Moi fatigué ? Bien sûr que c'est un mensonge. Mais non, je vais bien et j'ai plein d'idées pour l'avenir. »
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le parcours sinueux de Coco Chanel, dont nous parlons avec notre invité Christophe Barbier. Bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
En tant que journaliste, vous êtes connu comme le loup blanc. En ce moment, vous êtes chroniqueur sur Radio J, d'accord ? Mais vous êtes aussi comédien. C'est-à-dire que vous ne faites pas du théâtre comme on fait de la poterie ou du cyclisme. Vous jouez au théâtre. Et ça fait plusieurs années. On va en parler. Et en l'occurrence, vous jouez Paul Morand, confident de Coco Chanel, dans la pièce Mademoiselle Chanel en hiver, au théâtre de Passy, Paris 16e, mise en scène par Anne Bourgeois. Je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que on vous a appris quelque chose aujourd'hui?
Ah oui. Oui, au moins deux choses. D'abord, cette accointance autour de la revue Témoin avec des milieux idéologiquement très engagés dans l'extrême droite et dans l'antisémitisme. Je connaissais pas cette campagne de pub anti-maçonnique pour lancer la revue. Donc là, comme financière, elle s'est mouillée au-delà de ses intérêts personnels parce que dénoncer éventuellement des associés juifs qui lui semblaient avoir trahi leur contrat, ça pourrait trouver une explication. Là, c'est vraiment injustifiable.
Ça serait pas glorieux non plus.
Ça serait pas glorieux non plus, mais il y aurait une logique quelque part. Logique, on comprendrait le fil. Là, on ne voit pas quel peut être le fil de cet enracinement idéologique, de cet antisémitisme assumé, si ce n'est, en effet, un préjugé intolérable. Et puis la deuxième chose, tout de même, c'est cette lettre pour récupérer ses actions des parfums Chanel, quand bien même elle considérait que le contrat initial l'avait grugé, en aller jusqu'à collaborer et demander aux nazis donc de la favoriser, de lui autoriser cette vente, ça c'est absolument impardonnable. C'est-à-dire, on peut comprendre tout ce qui est dans la nuée de l'histoire d'amour, et en effet, quand on a 50 ans passés, qu'on croise un bel âtre quadragénaire, voilà, on peut ne pas être très regardant sur le passeport, comme elle le dit, mais aller plus loin, ça c'est inexcusable, c'est impardonnable. On voit aussi, mais ça m'a moins surpris, quelle âpreté elle a eue pour continuer son combat, revenir en France, reprendre ses affaires, récupérer ses intérêts sur les parfums Chanel et redevenir la grande égérie de la mode. Parce que si sa première collection à son retour dans les années 50 fait un bide, il y a une sorte de punition symbolique qui lui est infligée par le tout Paris, la deuxième fait un triomphe. Et Chanel est reparti jusqu'à sa mort. Tout comme d'ailleurs Paul Morand réussira à avoir une deuxième carrière littéraire après ses années de collaboration.
Parlons-en de Paul Morand. Que vous incarnez. Donc j'imagine que vous êtes vraiment beaucoup documenté, comme sur Coco Chanel, et je suis assez ravi qu'on ait réussi à vous apprendre des choses. Donc sur Paul Morand, vous êtes documenté, vous le jouez, vous l'incarnez. Qui est cet homme ?
Un écrivain, rendu célèbre par son style, mais aussi un dandy. Vous avez prononcé le mot dandy, là. Et en effet, cette période est marquée par des dandys qui se sentent tellement supérieurs que le racisme, l'antisémitisme leur sont naturels. Et ça, c'est évidemment un bain idéologique de l'époque qu'aujourd'hui, heureusement, on combat pour qu'ils ne reviennent pas. Et puis, c'est quelqu'un qui, lui, a collaboré de manière active et politique, puisqu'il est au cabinet de Pierre Laval. En 42, c'est Pierre Laval qui va le faire nommer ambassadeur en Roumanie. Il a épousé une Roumaine. Puis après, à Berne, en Suisse. Il était en 1940 à Londres, Paul Morand. Il a vu arriver De Gaulle. Il aurait pu tomber du Beau-Comté. Il rentre dardard à Vichy faire allégeance au régime, où d'ailleurs on le trouve un peu encombrant. Donc vous voyez, Paul Morand a été lui aussi épargné par les ennuis judiciaires, comme Chanel, parce qu'il a eu l'habileté de se faire oublier, de disparaître en Suisse, puis au Maroc, et aussi parce que il n'a jamais accompagné ses actions politiques de collaborateur, c'est-à-dire de sbire du gouvernement de Vichy, par des textes idéologiques. Il a publié des livres, il y a du racisme dedans, il y a de l'antisémitisme. Son journal, qu'on a découvert bien plus tard, en regorge. Mais il n'a jamais livré des pamphlets théorico-antisémites comme ont pu le faire d'autres, comme Robatet, Drieu ou Brasillach. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas allé le chercher et qu'il a évité soit le peloton d'exécution, soit la prison. Néanmoins, on a du mal à comprendre pourquoi cette amnistie de 1953, si rapide et si totale, ce qui permet à Morand de revenir en grâce. Il devient le héros des hussards, là, de Nimier et de quelques autres. Il est, comme Chardonne, sorti de l'oubli. On nous dit, ah ben ceux-là, d'avant les années 40, ah ils avaient du talent. Allez, on va les remettre à la mode. Et ça lui permet d'être élu à l'Académie française en 68. Siège qu'il laissera à sa mort à Alain Perfitte. On peut pas faire plus gaulliste que Perfitte.
Ah non,
et je crois clair. Que Perfitte, dans l'hommage qu'il rendra à Morand, puisqu'il faut rendre hommage à son prédécesseur, eh bien Perfitte ne dira pas un mot de la guerre de Morand. C'est dire si l'amnistie était devenue une amnésie.
Jolie formule. Et au bout du compte, l'antisémitisme de Coco Chanel était un antisémitisme, on va dire, ordinaire, de cliché, il y a une époque. Un antisémitisme de vengeance par rapport à ses premiers financiers, ou un antisémitisme, c'est antisémitisme, bonsoir, doctrinaire.
Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'antisémitisme doctrinaire chez elle. Elle n'a pas de sens politique, ce n'est pas une intellectuelle. Il y a ce double antisémitisme, celui de la société dans laquelle elle a baigné, elle était du côté des antisémites, et puis cet antisémitisme de la cupidité. J'ai fait des affaires, ils ont été plus malins que moi, ils sont juifs, donc je suis antisémite par intérêt. C'est sans doute celui-là qui a été le plus virulent chez elle. Et si elle a été dans un antisémitisme de dénonciation et d'action, c'est d'abord parce que ses intérêts en avaient été floué.
Christophe Barbier, décidément, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ça arrive. Christophe Barbier, on vous retrouve dans 3 minutes pour parler de théâtre. C'est pas toujours Coco Chanel, Paul Morand et la scène, après avoir écouté Albin de la Simone, les 100 prochaines années.
Je suis père et fils et je fus mari. Années 70 avant Jésus-Christ, je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les sentiments.
Aujourd'hui, le parcours sinueux de Coco Chanel. Il est intéressant, Christophe Barbier, notre invité, de se rendre sur le site de Chanel, qui est à son image extrêmement élégant et qui entretient sa légende. C'est-à-dire que pour évoquer les années de guerre, on évoque seulement la fermeture de ses boutiques et rien d'autre. Ça veut dire que c'est encore tabou, finalement.
Oui, c'est encore tabou. La marque Chanel a eu l'habileté de ne pas lutter contre la vérité. Les biographes ont pu faire leur travail, les historiens ont pu faire leur travail, et nous, on joue une pièce qui ne montre pas Chanel sous son meilleur jour. Mais, bien entendu, dans l'histoire officielle, dans le mythe, parce que les marques se nourrissent de mythes, eh bien évidemment, on a estompé cet aspect-là de Chanel, tout comme on a estompé aussi sa dépendance à la morphine. C'était une opiomane, voilà. Tout comme on a estompé
dans
aussi...
Dans la pièce, on le voit bien, en revanche.
On voit bien dans la pièce. Mmh. Tout comme on a estompé aussi une bisexualité qui aujourd'hui ne fait plus débat, mais qui, à l'époque, aurait fait scandale. Chanel a réussi à construire un mythe qui a été parachevé par Karl Lagerfeld.
Oui.
La présence de Lagerfeld à la tête de la maison, avec sa personnalité, son origine allemande, son originalité, a complété le mythe. Et nous, on voit arriver des jeunes spectatrices qui souvent travaillent un peu dans la mode ou ont envie de travailler dans la mode, qui découvrent un peu ébahis la complexité de la vie de Chanel. Ça n'enlève rien au génie de Chanel, au génie de créatrice de mode, au fait qu'elle était en avance sur son temps et qu'incontestablement, elle a été une féministe. Elle a été précieuse dans le combat féministe par son génie. Mmh. Mais le génie n'absout pas de tout.
La preuve, Lagerfeld reprend la maison en 1983. On va parler théâtre maintenant. Donc la pièce s'appelle Mademoiselle Chanel en hiver, mise en scène par Anne Bourgeois. Comment est née cette pièce? Qui a eu l'idée? Quelle était l'intention de la pièce?
Thierry Lassalle a eu cette idée avec la volonté de montrer ce moment très précis où ses anciens collaborateurs sont à la fois dans la débandade, puisqu'ils sont partis tous un peu en ayant à peine le temps de boucler leurs valises. Ils sont dans un esprit de revanche. Morand, comme Chanel, croit en 46 que, puisque De Gaulle vient de quitter le gouvernement, on va très très vite pouvoir rentrer à Paris et que le cours des choses reprendra comme avant la guerre. Il se trompe. Il va falloir rester en exil un petit peu plus longtemps. Et puis il y a évidemment beaucoup d'aigreurs. Il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils livrent tout leur ressenti, parce que ce sont des vaincus qui n'acceptent pas de l'être. Il a saisi ce moment psychologique en creusant aussi, c'est ce qui est intéressant à jouer, les ambiguïtés de ces personnages. Ils sont à la fois attachants et détestables. Mmh. On ne peut pas ne pas les admirer, l'un pour son style d'écrivain, l'autre pour son génie de créatrice, et on ne peut pas ne pas les détester, parce que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Morand comme proche de Laval et comme ambassadeur en Roumanie, et Chanel pour tout ce que vous venez d'exposer. Comment faire avec ces ombres et lumières? Comment chacun d'entre nous, on se comporte? On aurait croisé Chanel en 1962, 10, un an avant sa mort, on aurait refusé de lui serrer la main, ou de lui dire « Madame, je suis ravi de faire votre connaissance ». On trouve des interviews télévisées de Morand académicien, panégyrique, oublie complètement ce qu'il a été. C'est évidemment impossible de juger à rebours. Mais cette pièce a voulu montrer les ambiguïtés, et Anne Bourgeois a creusé ce filon-là de l'ambivalence en allant chercher des acteurs. Et c'était pas facile. C'est elle qui a eu l'idée du couple que je forme avec Caroline Siol. Et c'est curieux, 5 minutes avant la première lecture, on ne se connaissait pas, Caroline et moi. Et la lecture a été une merveille. Comme si on avait répété 3 semaines déjà ensemble, face à face. Et puis, deux autres personnages sont importants, hein, parce que dans l'histoire de Chanel et dans la pièce, il joue un grand rôle. D'abord, Spatz. Parce que Spatz, on peut croire que c'est un espion qui a séduit cette vieille pour l'intérêt du Reich. Non, il était vraiment amoureux. Et leur histoire d'amour va durer longtemps. Et comme le dit la pièce, la tombe de Spatz est fleurie encore aujourd'hui parce que Chanel a demandé dans ses volontés testamentaires. Ah oui, oui. C'est quand même extraordinaire. Oui. Il y avait une vraie histoire d'amour derrière cette fausse, affreuse histoire idéologique et de manipulation et d'espionnage. Et puis le majordome de Lausanne, en fait c'est un personnage qu'elle a rencontré plus tard, là, l'auteur dramatique a fait un peu de raccourci chronologique, elle s'est assurée les services d'un homme qui était son homme à tout faire sur la fin de sa vie, son chauffeur, son secrétaire, son porte-valise, son amant aussi parfois, semble-t-il, et qu'elle avait rencontré dans cet exil, François ou Jean, selon la façon dont il est appelé. Et ça, ça montre aussi ce qu'était Chanel. Capable de créer des attachements à la vie, à la mort, par simple fascination. Cet homme juif, valet d'hôtel, va lui sacrifier toute sa vie et se vouer corps et âme à Chanel. Il en sera récompensé lui aussi dans le testament, parce que c'est Chanel, point barre. Et que quand on croise Coco, il y a un magnétisme qui passe par-dessus tout. La morale, l'histoire, la politique, les intérêts, et ça, c'est inexplicable.
Il y a un côté Sigmaringen dans cette situation, dans cet hôtel, à la fois de lâcheté et d'arrogance, de ne pas vouloir reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on d'aller sur les mauvais chemins, ça vous a fait penser à un côté Sigmaringen aussi?
Tout à fait. C'est un côté Sigmaringen avec une chose en moins, une chose en plus. La chose en plus, c'est tellement d'argent qu'on vit dans les palaces. Ouais. L'exil est doré quand même, et donc c'est pour ça que les portes s'ouvrent. Et une chose en moins, c'est une haine purulente qui continue à suinter. Quand on voit le récit de ce qui se disait à Sigmaringen, cette espèce de gouvernement fantoche, parce qu'il se prenait pour le gouvernement de la France légitime, ça pue une haine qu'on ne trouve pas chez ces riches aristocrates ou bourgeois qui ont fui dans les palaces de Lausanne et qui quand même savent qu'ils ont perdu. Ils refusent de l'avouer, mais au fond d'eux, ils ont perdu l'énergie de la lutte.
Alors, vous incarnez Paul Morand. Comment vous avez travaillé d'un point de vue d'acteur ce personnage ?
J'ai d'abord beaucoup relu Morand. Je connaissais L'Homme pressé, je connaissais quelques nouvelles. J'ai lu et relu. C'est un auteur qui a écrit énormément de choses. Et c'est un grand écrivain. Honnêtement, son style n'a pas vieilli aujourd'hui. Il peut se lire avec toujours le même plaisir, y compris les textes les plus scandaleux, les plus contestables, comme Magie noire, qui est une série de nouvelles profondément racistes. Mais de ce racisme de l'élégance qui considérait le noir comme une espèce d'animal supérieur, de superbe animal qu'il fallait admirer. Il y a d'ailleurs une sorte de fascination érotique de Morand, bien entendu, pour les corps noirs, puisqu'il a arpenté le continent africain. Et donc j'ai beaucoup relu Morand, j'ai regardé quelques archives que l'on a de lui audiovisuelles, mais qui sont après la guerre. Et donc on a ce Morand qui se veut à la fois vieille France, avec une langue parfaite dans son expression orale, et un style du vieil homme qui essaye de lutter contre ce vieillissement, garder une silhouette assez fine, un côté sportif, et surtout rester un éternel séducteur. Mais on sait maintenant, parce que des biographies très documentées ont été publiées, on sait aussi par son journal, qui est dévoilé pan après pan, à quel point il est resté jusqu'au bout de sa vie un salaud. Mais vous savez comme moi, Fabrice, que jouer les salauds au théâtre, c'est passionnant.
Sûr, c'est plus passionnant. Justement, question technique sera ma dernière question. Quand on passe du journalisme audiovisuel, qui sont des espaces où les silences sont proscrits, bien que, mais enfin, officiellement c'est proscrit, alors qu'au théâtre, le silence est un langage. Il est un langage puissant. Est-ce que vous avez eu ce conflit-là au début ?
Oui,
est-ce qu'il a fallu le régler ?
Oui, toujours. Et c'est là où Anne Bourgeois, la metteuse en scène, a été décisive. C'est elle, la maîtresse des silences. Parce que dans le silence, il y a non pas un vide, mais le non-dit. Or, au théâtre, ce que le spectateur va imaginer en écoutant le silence et en supposant les non-dits, c'est l'essentiel. Parce que c'est avec ce bagage-là que le spectateur va partir. Et donc, le silence de Morand est-il un remords, une haine supplémentaire, un regret, une insistance Eh ben, au spectateur de se faire sa religion.
Alors qu'un silence à la radio, ça fait ça. Et ça, c'est très gênant. Merci Christophe Barbier.
Merci Fabien.
À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Coco Chanel et Les Heures Troubles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Et à vous d'entrer en scène, cher Mathieu Noël. Maintenant, c'est votre heure.
Merci. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, j'espère très sincèrement que vous ne connaissez rien de notre sujet du jour, sinon c'est inquiétant. Zoom sur le blanchiment d'argent. La pratique a toujours existé, vous le savez, mais vous allez voir qu'elle s'est considérablement modernisée. Ça devient très difficile pour ceux qui la traquent.
Moi, je connais mieux le blanchiment de dents.
Enfin, ça va, c'est légal.
À 16h, pour le prochain... 16h, juste après le flash.